Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, merci Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde par Jean-Frédéric. Et pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, donc, nous avons choisi de nous pencher sur le Covid et ses conséquences. Voilà plus d'un an que le monde vit au rythme de la pandémie et de nouveaux défis apparaissent à mesure que la situation évolue. Covid-19, saison 3, donc, nous évoquerons demain l'acceptation sociale poussée dans ses retranchements par la persistance des restrictions sanitaires. Mercredi, la paupérisation entraînée par l'épidémie aux États-Unis et puis jeudi, l'économie paralysée du tourisme d'hiver. Mais pour commencer, intéressons-nous aujourd'hui à ce qui monopolise pour l'heure l'Union européenne, les vaccins.
L'Union européenne et d'autres ont apporté une aide financière. Des sommes importantes ont été investies tôt pour construire des infrastructures de recherche et de production. L'Europe a investi des milliards pour aider à développer les premiers vaccins contre le Covid-19. Pour créer un vrai bien public mondial. Maintenant, les entreprises doivent livrer. Elles doivent honorer leurs obligations. C'est pourquoi nous allons mettre en place un mécanisme de transparence sur l'exportation des vaccins. L'Europe est déterminée à contribuer à ce bien public mondial. Mais c'est aussi du business.
Et oui, cette voix qu'on entendait, c'était celle d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Des vaccins développés en quelques mois contre quelques années en temps normal, entre accélération des processus et multiplication des financements, les laboratoires pharmaceutiques sont arrivés à une prouesse scientifique inédite. Mais l'espoir suscité par ces avancées a vite laissé place en Europe à la désillusion. En effet, les vaccins précommandés par Bruxelles à différentes entreprises font aujourd'hui l'objet d'importants retards de livraison, déclenchant des débats sur les contrats négociés par la Commission, ravivant aussi les blessures du Brexit. Certains accusant en effet le laboratoire britannico-suédois AstraZeneca de favoriser le Royaume-Uni au détriment de ses engagements vis-à-vis de l'Europe. Ce contretemps vient mettre en exergue aussi l'absence à ce stade de vaccins français, alors que Sanofi faisait partie du portefeuille des précommandes de l'Union européenne. Un retard qui ne doit pas être considéré comme un échec selon l'entreprise puisque le processus garde de bonnes chances d'aboutir et qu'il faudra de toute façon le maximum de vaccins disponibles dans les mois à venir. Mais alors que le groupe supprime des emplois, difficile de ne pas voir dans cette situation le résultat d'investissements insuffisants dans la recherche et le développement au niveau français en particulier et en général européen. Au point que certains pays de l'Union, Hongrie en tête, se tournent vers les vaccins russes et chinois. Alors comment expliquer les retards de livraison de ces vaccins? Quels sont les critères qui ont prévalu pour passer les contrats avec les différents laboratoires, en amont des fonds débloqués spécifiquement pour faire face au Covid? Les investissements européens dans la recherche médicale sont-ils compétitifs vis-à-vis des autres puissances mondiales? Pour évoquer ces questions et bien d'autres, on a invité ce matin Anne Bûcher. Bonjour Anne Bûcher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancienne directrice générale de la santé à la Commission européenne. Vous l'étiez jusqu'en octobre 2020. Ça va nous permettre de faire un peu le clair sur la manière dont la Commission a géré ses précommandes de vaccins. J'indique également pour nos auditeurs que vous êtes autrice d'un rapport pour Terra Nova intitulé « Production des vaccins, de point quels enseignements tirer de l'expérience Covid ?» Point d'interrogation. Avec nous également Gérard de Pouvoirville. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite d'économie de la santé à l'ESSEC. Ça fait des mois que l'on attend ces vaccins. Alors, on sait bien, on l'a dit souvent, que leur mise au point est extrêmement rapide et que c'est une prouesse extraordinaire sur le plan scientifique. Il n'empêche que beaucoup de citoyens européens considèrent que leur production et leur déploiement sont loin d'être à la hauteur. Pourquoi ces retards, Anne Bûcher? On va évidemment détailler, mais qu'est-ce qui s'est passé et quelle responsabilité pour les dirigeants européens et en particulier la Commission qui a négocié pour l'ensemble des États membres, Anne Bûcher?
Je pense qu'on a, comme vous venez de le dire, une actualité assez sensible. Et on oublie un peu la perspective de la mobilisation industrielle et scientifique qui a été mise en œuvre. Et on savait que y aurait des difficultés opérationnelles. On a négocié les vaccins dans un contexte de grande incertitude quand les vaccins ont été négociés à l'été 2020. On ne savait pas quand est-ce que les vaccins seraient effectivement mis au point. On ne savait pas quand est-ce qu'ils seraient validés. Et les capacités de production ont été développées en parallèle aux essais cliniques et aux recherches. Ça, c'est le premier aspect. Donc, on savait qu'au premier trimestre 2021, c'était...
En parallèle, pardon Anne Buchet, mais c'est précis... Ursula von der Leyen dit précisément l'inverse dans sa dernière interview dans La Croix. Elle dit « Nous aurions dû précisément à la Commission gérer ça en parallèle ». Je cite exactement ce qu'elle a dit. Hein. « Ce dont je me rends compte aujourd'hui en regardant dans le rétroviseur, c'est que nous aurions dû plus penser en parallèle à la production de masse et aux défis qu'elle pose ». C'est ce qu'elle dit. Elle fait un mea culpa sur ce point-là, précisément.
Elle dit avoir sous-estimé les difficultés opérationnelles, mais c'était si on pense à la situation et aux contrats qu'ont signés des entreprises comme AstraZeneca à l'été 2020, s'ils ont mis ces clauses d'obligation de moyens, c'est précisément parce qu'ils avaient des incertitudes sur leur capacité à produire à grande échelle dans un temps très court. Et on savait aussi que les investissements seraient progressifs et que donc le plein régime ne serait vraiment atteint qu'au deuxième ou au troisième trimestre 2021. Oui. Donc de ce point de vue-là, il y a un aspect opérationnel. Et je crois que l'autre partie de l'histoire, c'est et qui fait partie des enseignements à garder de cette expérience du Covid, c'est la coopération internationale. C'est-à-dire qu'il y a des les États-Unis ont négocié les premiers des contrats avec plusieurs entreprises, avec des clauses très restrictives, notamment des clauses d'exclusivité. Et ces contrats sont confidentiels, donc en fait, tout le monde négocie à l'aveugle.
Oui. Alors, on va revenir sur tout ça, Anne Buchet, on va essayer de détailler un peu les choses. Mais Gérard de Pouvourville, je voudrais avoir votre regard aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ces retards de livraison. Il y a la responsabilité de la Commission, il y a la responsabilité peut-être de laboratoires qui se sont engagés peut-être un peu vite sur des volumes, alors même qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas les garantir. Il y a évidemment cet enseignement que soulignait Anne Buchet, c'est-à-dire les États-Unis ont tiré les premiers, si je puis dire. Et alors, du coup, on se demande, est-ce que la Commission européenne a été en retard ou est-ce que au fond il n'était pas peut-être assez judicieux d'attendre un tout petit peu de voir pour prendre de meilleures décisions? Gérard de Pouvourville, comment vous voyez les choses, vous?
Je suis tout à fait ce que dit Madame Buchet, c'est-à-dire que je pense qu'il était très difficile à l'époque où ces contrats étaient négociés. En tout cas, je ne pense pas qu'il aurait fallu que la Commission attende. Au contraire, je veux dire, en fait, on lui reproche même d'avoir tardé, parce qu'il fallait effectivement aller extrêmement vite dans ces négociations avec les industriels. Je pense qu'il y a une asymétrie en termes de potentiel financier et de nature des engagements que la Commission européenne peut peut-être passer, ça Madame Buchet pourra le dire, avec les laboratoires par rapport au gouvernement américain, avec leur structure de financement BARDA qui a injecté vraiment des milliards de dollars très très tôt, avec évidemment des clauses d'exclusivité. Trump l'a dit plusieurs fois en disant « je paye, donc je suis le premier servi ». Donc il y a cette asymétrie évidemment de pouvoir financier, de pouvoir de négociation avec les laboratoires. Et il y a évidemment, moi quand on parlait effectivement, enfin, je sais pas, je suis passé sur votre émission il y a peut-être quelques mois, et j'avais pointé du doigt le fait qu'il fallait pas du tout sous-estimer l'investissement dans les capacités de production. Ce qui dépend, en fait, cet investissement, cette capacité d'investissement dépend évidemment de la technologie vaccinale qui est sous-jacente. C'est sûr que quand on est dans des technologies vaccinales comme Sanofi ou même AstraZeneca, qui sont plutôt classiques, on pourrait dire, par rapport à l'ARN messager, la question c'est plutôt de savoir si on peut... Et AstraZeneca n'est pas un gros producteur de vaccins.
Mais c'est là justement que le bât blesse, Gérard de Pouvourville. C'est-à-dire que, comme précisément la Commission a été un peu en retard, que les précommandes ont été lancées extrêmement tard, on va refaire un petit peu le calendrier ensemble, mais c'est l'une des choses qu'on remarque par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a fait les choses beaucoup plus en retard. Les premières précommandes, c'est septembre, et puis ça va s'étaler, octobre, novembre, beaucoup, donc c'est très en retard. Donc tant qu'on n'a pas fait ces choix-là, on ne peut pas investir précisément sur les dispositifs de production vaccinale.
Bien, oui, tout à fait, mais bon, il y a peut-être aussi, si vous voulez, une difficulté, un différentiel important entre les États-Unis et l'Europe en tant qu'Union européenne. les États-Unis, il y a un seul gouvernement qui peut travailler vite. Au niveau européen, il faut effectivement un accord. Enfin, faut que ça soit une politique commune, qui soit décidée, qui soit acceptée, que on engage effectivement le budget européen sur ce type d'opération. Par ailleurs, peut-être, si je puis me permettre, il y a peut-être aussi une différence en termes de prudence ou de prise de risque par rapport à l'enregistrement de ces médicaments entre la FDA et l'EMA,
l'agence
Administration, l'agence
européenne du médicament. Mais alors justement, peut-être on va se tourner vers Anne Buchet pour lui demander comment ça s'est passé au niveau de la commission, parce que vous étiez, Anne Buchet, la directrice générale de la santé à cette commission européenne, donc vous avez été, si je puis dire, aux premières loges pour voir justement comment se passent ces procédures, comment s'organisent ces négociations. Vous nous expliquez un peu comment ça se déroule, les discussions avec les laboratoires, à partir de quand on décide d'engager un processus de négociation avec un labo, comment les différents États, qui évidemment ont sûrement des exigences et des intérêts différents, pèsent sur la commission pour obtenir gain de cause. Racontez-nous un peu les coulisses.
En fait, il faut déjà savoir que la commission est partie avec un budget qui était fixe. C'est-à-dire que jusqu'en avril 2020, la Commission n'avait pas les fonds et elle n'était pas, elle, institutionnellement, elle n'est pas autorisée à utiliser son budget pour acheter des vaccins. Il a donc dû faire un fonds d'urgence sur une base institutionnelle différente. Et donc la Commission disposait d'un montant total de 2,7 milliards d'euros en avril.
Une fois le financement fixé, parce que ça, à la limite, c'est pas le plus difficile en réalité.
Et je pense que c'est important de savoir qu'elle avait au départ une contrainte budgétaire qui était ces 2,7 milliards d'euros. Mmh. Ensuite a été décidée une stratégie de vaccination avec l'ensemble des États membres, où les États membres et la Commission se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient financer un portefeuille de vaccins. Ces vaccins seraient choisis en fonction d'un certain nombre de critères et notamment sur la perspective qu'ils avaient d'aboutir et d'être validés dès le début de 2021, sur le fait qu'il y avait des capacités de production en Europe, sur le fait aussi que les entreprises avaient déjà approché l'Agence européenne des médicaments et sur une idée de diversification des technologies. Et une fois ce portefeuille fixé, qui a été un portefeuille de 6 vaccins, qui a été étendu à 8 vaccins, il y a eu un accord entre les différents États membres pour monter en fait un comité de pilotage pour la négociation de ces 6 vaccins.
Alors attendez, on va s'arrêter, Anne Buchet, là un instant, mm-hmm. s'il vous plaît. On va revenir sur ce comité, mais d'abord vous avez insisté sur la question de la chronologie. Et dans la chronologie des négociations, il se trouve que Sanofi a été le deuxième contrat signé avec la Commission, juste après AstraZeneca. Pourtant, quand le contrat est signé, on est en septembre 2020, le candidat vaccin précisément ne répond pas aux critères de base qui lui permettent d'être auditionné par le comité scientifique français. Ça veut dire qu'il est très en retard par rapport à un certain nombre d'autres candidats vaccins. Il n'a par ailleurs pas encore commencé son essai clinique. Et pourtant, ça va être le deuxième contrat qui va être signé. Et là, tout de suite, évidemment, Anne Buchet, on a un problème. C'est-à-dire qu'on a tout de suite un soupçon, justifié ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas un soupçon de favoritisme. C'est-à-dire, en gros, on mise sur Sanofi parce que c'est évidemment le champion national, parce que Paris pousse pour cela. Il y a tout de suite un soupçon qui pèse sur ce calendrier, Anne Buchet.
En fait, les négociations dépendaient essentiellement aussi de la disponibilité des entreprises à rentrer en négociation. Donc, on a eu le portefeuille de vaccins a été fixé. Le vaccin de Sanofi, vous dites, il rentrait pas dans ces critères. C'était pas des critères complètement binaires. Il y avait un degré d'appréciation. Si vous regardez la composition du portefeuille européen, elle est assez proche de celle du portefeuille américain. Le vaccin Sanofi y était. Et ensuite, comme je vous le dis, ça dépendait essentiellement de la disponibilité des entreprises à rentrer en négociation avec l'Union européenne.
On va revenir sur le comité, mais d'abord je voudrais faire réagir Gérard de Pouvourville sur ce calendrier.
C'est juste pour aller dans le sens de Madame Buchet, désolé, là je défends peut-être la Commission européenne, mais...
Ne vous excusez pas, et par ailleurs, personne ne défend personne, personne n'attaque personne, on essaye de comprendre.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quatre géants du vaccin dans le monde. qui font quasiment 75% de la production des vaccins, ou je dis 75%, mais c'est bon, ils sont majoritaires. Et là-dedans, il y a un Européen, MSD, c'est un Américain, Pfizer est un Américain, qui d'ailleurs est pas non plus un spécialiste des vaccins, qui a plutôt investi dans le vaccin par rachat. Donc le premier, c'est GSK, pardon, bon, qui est anglais, et puis il y a Sanofi. Il y a une légitimité forte à se dire que on a des capacités de production en Europe avec Sanofi. Donc vous allez me dire, il y a aussi des capacités de production en Europe de GSK. Donc c'est un critère quand même important.
Mais non, mais vous avez complètement raison, Gérard de Pouvourville. C'est un critère, mais à partir du moment où on est transparent et qu'on dit, bah oui, effectivement, Sanofi est bien implanté en Europe, c'est potentiellement un champion européen. Il arrive souvent au micro des radios, notamment de celle-ci, que l'on critique l'Europe incapable précisément de soutenir ses champions. Si elle le fait, très bien. Sauf que il faut le savoir. Il faut être clair sur ce qu'on fait.
Oui, il faut le savoir. Mais bon, là, je connais pas suffisamment les incertitudes, entre guillemets, scientifiques au moment où la négociation s'est faite. Je voudrais rajouter juste un point. Il se trouve que, par ailleurs, à l'époque, Sanofi et GSK avaient créé une alliance, GSK apportant effectivement sa compétence en matière d'adjuvant et Sanofi sa compétence en matière de développement des vaccins. Donc on avait, c'est pas Sanofi qui a été choisi, c'est Sanofi plus GSK, et ce sont deux entreprises qui ont des capacités de production en Europe et qui ont vraiment un savoir-faire et qui se lancent par ailleurs quand même dans un développement, on pourrait dire a priori moins risqué que l'ARN messager, parce que c'est quand même des technologies qui ont été éprouvées, sur lesquelles les deux laboratoires ont fait la preuve de leurs compétences dans le passé. Donc j'imagine que ça pèse dans la décision, si vous voulez.
C'est entendu.
C'est un pari, bien entendu que c'est un pari, mais ça pèse quand même dans la décision. N'oubliez pas quand même que, disons, en moyenne, c'est mieux pour les vaccins que pour les médicaments, mais en moyenne, il y a 3,5 à 4 projets vaccinaux sur 10 qui arrivent au bout du compte, au bout de la course. Oui. Bon, donc il y a quand même encore un risque lié au développement, même si on est confiant à la fois sur une base scientifique, technologique et de production, même si on est confiant qu'on est capable de le faire. Donc ça a joué. Est-ce que c'est une préférence européenne ? Bah, bien sûr que c'est une préférence européenne, et tant mieux.
Anne Buchet, bien sûr que c'est une préférence européenne, c'est aussi le souci que ça pose, c'est-à-dire que le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment quels sont les critères qui ont été retenus, parce que précisément il y a encore très peu de connaissances sur le contenu même des contrats. Est-ce que là, il n'y a pas un souci là de transparence sur ces contrats, Anne Buchet ?
Bon, d'abord, je reviens sur la question des critères. Les critères ont quand même été énoncés dans la stratégie des vaccins, c'est-à-dire sur effectivement le potentiel d'arriver sur le marché début 2021, mais aussi, comme je le rappelais, sur le fait qu'il y ait des capacités de production en Europe facilement mobilisables, sur le lien avec l'agence des médicaments. Donc la stratégie avait annoncé les orientations. Ensuite, sur les négociations sont confidentielles, les contrats sont confidentiels. C'est peut-être un petit peu surprenant pour le citoyen européen, mais c'est une pratique quasiment systématique dans le domaine pharmaceutique, et ce sont des règles commerciales internationales pour les marchés publics négociés. Ces contrats restent confidentiels pour des raisons de concurrence et des raisons de protection d'informations industrielles et scientifiques.
C'est une spécificité du secteur pharmaceutique, parce que en Europe, il y a aussi des règles et des standards en matière de transparence. Ça s'applique pas au secteur de l'industrie pharmaceutique ?
Dans le secteur pharmaceutique, en général, la très très grande majorité des contrats sont confidentiels.
D'accord.
C'est d'ailleurs un problème pour la transparence des prix des médicaments au niveau international.
Si on revient sur le comité, Anne Buchet, parce que à partir du moment où on lance une négociation avec un laboratoire, tous les États membres sont pas présents. On va en sélectionner quelques-uns. Lesquels on sélectionne et pourquoi on les sélectionne et comment se passe la négociation ?
Enfin là, je vais pas rentrer dans le détail. Mais
si, c'est important de rentrer dans le détail, de savoir justement quels sont les États membres qui sont dans les négociations qui se passent à huis clos. Je vous demande pas de dire ce qui se dit, mais les représentants, par exemple, la Suède, l'Espagne et la Pologne, je crois qu'elles sont de façon quasiment systématique associées pour un certain nombre de raisons, notamment liées à la question de la production des vaccins que vous évoquiez. C'est important de le savoir.
Bon, les équipes se forment, elles sont cooptées par le comité de pilotage, et c'est une combinaison de connaissances des industries pharmaceutiques et aussi d'expérience des experts dans les négociations. Tous les États membres ne sont pas en mesure, ce sont des experts qui sont aussi très occupés au niveau national. Et donc, il faut des experts qui soient disponibles et compétents et qu'on puisse mobiliser pour les 15 jours, 3 semaines que prennent ces négociations. Donc en fait, c'est un système de cooptation à l'intérieur du comité de pilotage.
Gérard de Pouvourville, sur ce système de cooptation, sur les personnalités qu'on y retrouve, évidemment, je vais encore dire des choses désagréables, mais bon, c'est un peu aussi un peu mon rôle, mais c'est vrai qu'il y a des personnalités dont on peut peut-être interroger la présence. Je pense en particulier à ce Suédois, Richard Bergström, qui a été par le passé à la tête de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, qui exerce encore comme consultant dans le secteur pharmaceutique, et évidemment, certaines voix en tout cas dénoncent une forme de collusion. Certains craignent qu'il cherche à faire le jeu de certains laboratoires. C'est une crainte qui est totalement injustifiée, c'est un faux procès. Gérard de Pouvourville.
Non, c'est pas un faux procès, c'est la difficulté de trouver un équilibre entre les liens d'intérêt que les experts peuvent avoir dans le présent ou par le passé et leur expertise. On se heurte au même problème dans quasiment toutes les agences du médicament européenne. C'est quelles sont les règles que vous établissez pour faire en sorte effectivement que les liens d'intérêt en question soient respectés. Vous ne pouvez pas, je ne connais pas du coup le tour de négociation qui a été fait comment Richard Bergström, par exemple, a été choisi, mais il n'est pas impossible que les règles lui aient imposé de ne pas participer aux discussions avec AstraZeneca. Bon, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Juste pour information pour vos auditeurs, il faut savoir que à l'Agence européenne du médicament, tous les États membres sont représentés et tous les États membres ne participent pas. Il y a deux équipes à chaque fois qui sont sélectionnées en tournant, si vous voulez, pour participer à l'évaluation des produits qui sont présentés à l'EMA. Donc déjà, si vous voulez, il y a un fonctionnement collectif avec des règles. Alors la règle de cooptation du comité de pilotage, je ne la connais pas, mais il y a un fonctionnement collectif. Le deuxième point, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que... Alors, a priori, on peut se dire non, c'est dégoûtant. Richard Bergström, que je connais d'ailleurs, il a été acheté, il a privilégié AstraZeneca. Mais et là, je parle en méconnaissance totale de cause. Il n'est pas impossible qu'il ait été exclu de la négociation avec AstraZeneca pour les raisons que vous avez évoquées. Suédois, AstraZeneca, c'est britannico-suédois.
Suédois, ouais.
Bien sûr que tout le monde se pose ce type de questions, mais je vous dis, il faut trouver cet équilibre entre ce qu'a dit Mme Bûcher, des experts. Des vrais experts, des experts disponibles. Et Richard Bergström, c'est quand même quelqu'un qui a une expérience EMA, ouais. D'ailleurs.
Expérience et expertise, voilà.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, qui, quand il est consultant, en fait, conseille les laboratoires sur les bonnes stratégies pour présenter des dossiers qui soient impeccables au niveau de l'EMA. Voilà, moi je peux pas en dire plus parce que j'ai pas d'informations sur potentiellement le fait qu'il y ait collusion ou pas.
Oui, alors je ne sais même pas si je vais poser la question à Anne Bûcher parce que je me doute qu'elle me répondra pas. Mais en tout cas, si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez réagir sur Richard Bergström, Anne Bûcher. Mais il y a quand même une question qui se pose sur AstraZeneca, c'est que je crois avoir compris que dans le paysage des candidats vaccins, celui qui était le plus en avance dans les essais, c'était précisément AstraZeneca, qui a commencé ses essais cliniques avant avant tout le monde, avant tous les concurrents, dès mars 2020. Et pourtant, quand on regarde les choses, le préachat, lui, n'est signé que le 24 novembre. C'est-à-dire, en fait, assez tardivement par rapport aux autres. On parlait de Sanofi, quasiment plus de 2 mois après Sanofi. Et sachant qu'on est en plus, par ailleurs, sur un volume relativement petit, à savoir en l'occurrence 160 millions de doses. Et là, on a un étonnement, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas sécurisé d'abord le vaccin qui était le plus en avance en commandant un très grand nombre de doses. Là, il y a une interrogation, mais peut-être qu'il y a aussi une raison qu'on ne voit pas, Anne Buchet.
Mais en fait, les négociations ont duré assez longtemps parce qu'AstraZeneca, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'il y ait la stratégie européenne qui a été adoptée le 17 juin, oui, il y a eu l'alliance des quatre entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas qui avaient déjà commencé à négocier avec AstraZeneca. Et quand la stratégie européenne a été signée, la Commission a repris en fait la main sur cette négociation. Donc la négociation a commencé tôt. Les contrats ont peut-être été signés tard, mais les approches ont été faites très vite.
Il y a un point aussi sur lequel on a beaucoup parlé, c'est cette question des clauses qui étaient plus fermes visiblement du côté des États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de couvrir, enfin les laboratoires essayent de se couvrir par rapport aux conséquences, aux dangers possibles d'une vaccination à grande échelle. Ça, du côté européen, on était un peu plus regardant sur ce point-là. Peut-être que ça explique en partie le retard aussi, Anne Buchet.
Il faut lire l'histoire récente comme le fait que l'Union européenne a moins joué la carte du nationalisme vaccinal que d'autres pays. Comme on l'a dit, les États-Unis ont introduit des clauses d'exclusivité. On ne connaît pas exactement les clauses des contrats britanniques, mais apparemment il y a aussi des clauses d'exclusivité. L'Union européenne a négocié des doses en fonction de cette contrainte budgétaire qu'elle avait. Et les usines et les productions européennes sont aussi servent aussi des contrats signés par d'autres pays comme le Canada ou le Japon. L'Union européenne n'a pas mis d'exclusivité sur les productions en Europe.
On parlait tout à l'heure de Sanofi. On va écouter le patron de Sanofi France qui revient sur les raisons du retard du vaccin Sanofi.
Il n'a jamais été prévu pour Sanofi d'arriver au mois de janvier. On savait qu'on arriverait après les autres. On a eu, dans le cadre de notre essai, un problème de dose. Vous savez, ça arrive dans beaucoup de développements cliniques et ça va nous retarder de quelques mois.
J'ajoute, là, ça s'est vu, quoi.
Ça s'est vu, mais si vous me permettez, il y a environ 250 candidats vaccins qui sont en recherche.
Oui.
Il y en a moins de 10% qui arriveront sur le marché. Moins de 10%.
Et il y aura 20 vaccins, selon vous, 20-25 vaccins maximum.
Environ une vingtaine de vaccins. Et le fait d'avoir des vaccins, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir les produire en quantité industrielle pour pouvoir vacciner le monde entier. Et donc, parmi ces 20 vaccins, je suis convaincu qu'il y en aura au moins Sanofi.
Voilà, c'était donc le patron de Sanofi France au micro de nos confrères de BFM, ce groupe, donc laboratoire français, qui est très en retard, en tout cas par rapport aux autres. C'est aussi un groupe qui traverse une crise profonde, Gérard de Pouvourville, avec des mouvements de protestation contre la suppression d'emplois dans la recherche et développement, avec un plan de suppression de 1700 emplois d'ici 2023, et en même temps, c'est un groupe, on l'a appris encore la semaine dernière, qui se porte à merveille financièrement. On vient d'apprendre que le bénéfice net du groupe a augmenté de 340% en 2020, qu'il va pouvoir verser plus de 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Quel regard vous portez sur justement cette mise en regard? D'un côté, on a un formidable succès financier, et puis de l'autre, un désastre scientifique et sanitaire. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas pas une grande réussite.
Oui, tout à fait. Et cet aspect-là est évidemment perturbant. Il est clair, si vous voulez, aujourd'hui, que l'industrie pharmaceutique, est, tout le monde le dit, hein, est très financiarisée, entre guillemets, et donc les actionnaires, effectivement, de ces grands groupes, hein, qui sont des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension américains, sont très attentifs, finalement, à la rentabilité de leur part, en fait, hein, de leur investissement dans ces industries. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un peu, c'est vrai, mais il y a un effet, si vous voulez, un peu, un effet un peu ciseau pour les stratégies de ces grands groupes. Si Sanofi essaye de dégager des profits, c'est aussi une façon de se protéger avec une hausse de la valeur de son action. C'est aussi une façon de se protéger d'un rachat. Donc les labos sont toujours obsédés par ça, hein, ne pas être victime d'une OPA amicale, amicale ça irait, mais d'une OPA hostile et d'un rachat. Mmh. Ils veulent garder leur indépendance, donc ils sont parfois, il est nécessaire parfois pour eux de mener ce type de stratégie qui paraît contre-productif du point de vue effectivement de leur mission de santé publique. Donc ça c'est probablement joué pour Sanofi. Sanofi qui a besoin aussi, elle verse des dividendes, mais elle a besoin aussi de la confiance de ses actionnaires, probablement pour faire ce qu'elle n'a pas fait ou qu'elle a fait peut-être plus tard et avec des moins bons choix que des concurrents comme Novartis par exemple, qui a une stratégie très très active et maligne de rachat de start-up en fait, ou Pfizer qui est un gros prédateur si je puis dire, qui se développe beaucoup aujourd'hui effectivement par rachat externe. Donc alors la crise arrive là-dessus et met ça en lumière si vous voulez. Et du coup le c'est vrai que alors il y a un autre problème pour ces gros laboratoires, notamment pour Sanofi, il y a un autre gros problème, c'est que leur investissement en R&D en termes de compétences, si vous voulez, hein, en termes de connaissances scientifiques et techniques et de compétences, est encore fondé la production de médicaments classiques, on pourrait dire traditionnels. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en matière de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Je parle pas de vaccin. Enfin, si, le vaccin, c'est une belle illustration. C'est issu, la très grosse partie des innovations est issue finalement de start-up, en fait, hein, qui ont des degrés de développement plus ou moins importants. Mais si vous regardez, là, j'ai pas la statistique en tête, mais les médicaments qui aujourd'hui finalement obtiennent une AMM, ils proviennent souvent...
Autorisation de mise sur le marché. Alliance.
Oui, pardon, excusez-moi, une autorisation de mise sur le marché, ils proviennent souvent d'une alliance entre la Big Pharma et une start-up qui, en fait, à un moment donné, va buter sur les fonds dont elle a besoin pour conduire le développement de son produit. Alors, c'est pas vrai de tous les produits, mais donc, je pense qu'il y a... Ça tombe vraiment mal, quoi. Hein. Oui. Le Covid tombe là-dessus, ça tombe vraiment mal. Mais la question qui se pose, mais ça, c'est un peu cru ce que je vais dire, la question qui se pose, parce que je ne connais pas le détail. Il y a un problème aussi de renouvellement en interne des compétences R&D des laboratoires. Et aujourd'hui, la majeure partie des laboratoires vont chercher leurs innovations ailleurs.
Alors, je vais donner la parole à Anne Buchet, alors. Mais j'entends ce que vous nous disiez, c'est-à-dire sur le fait qu'on est dans une situation où les laboratoires ont besoin aussi d'être rentables pour se protéger d'une certaine manière. Sauf que vous disiez, ça tombe d'autant plus mal, Gérard de Pouvourville, que l'État français a quand même versé des indemnités à l'entreprise Sanofi au titre du chômage partiel, et que c'est vrai que du coup de voir le groupe à la fois déployer un plan de suppression de 1700 emplois et dans le même temps verser 4 milliards de bénéfices, vous voyez, ça tombe encore plus mal, vous voyez ce que veux dire. Anne Buchet, peut-être une réaction sur le cas Sanofi et puis ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la question des investissements. Il y a un point que vous évoquez dans votre rapport pour Terra Nova. Je rappelle, production des vaccins, quel enseignement tirer de l'expérience Covid ? Et vous rappeliez dans ce rapport que l'investissement public dans la recherche pour les vaccins est passé en Europe de 23 millions à 1,9 million de 2002 à 2012, alors que dans le même temps, du côté des États-Unis, on est passé de 13 millions à 42 millions. Et alors là, il faut qu'on comprenne ce désengagement des investissements publics en Europe dans les vaccins, alors qu'aux États-Unis, visiblement, on a vu la chose venir, en tout cas, on s'est préparé.
Tout à fait. Je pense que en Europe, on a sous-estimé la dimension stratégique de l'industrie du vaccin, notamment dans une perspective de sécurité sanitaire, ce que les États-Unis n'ont pas fait. Parce que les États-Unis, depuis la multiplication en fait, des pandémies ont pris conscience qu'il fallait renforcer le dispositif de préparation aux crises sanitaires et ont mis en place en 2006 cette agence BARDA qui est chargée en fait d'organiser, en fait, de suivre l'innovation, de financer la recherche et d'organiser des achats de toutes les fournitures médicales, y compris médicaments et vaccins qui sont nécessaires pour une crise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Europe, qui avait une industrie du vaccin assez performante par tradition, s'est finalement un peu reposée sur ses lauriers, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements dans l'industrie pharmaceutique sur les 40 dernières années de concentration et de repositionnement des industries pharmaceutiques sur les filières les plus rentables, qui ont conduit au fait que les filières vaccins ont été plus fusionnées, quelquefois arrêtées, et que on n'a pas, il n'y a pas eu de réaction en fait des autorités publiques pour exiger un minimum de s'assurer qu'il y a un minimum de production de capacité sur le sol européen. Mmh. Et alors qu'aux États-Unis, il y avait une politique très offensive d'attirance des industries du vaccin et de financement des start-up.
Et en même temps, Anne Buchet, je vais vous provoquer, mais est-ce que c'est si grave ? Gérard de Pouvourville nous disait tout à l'heure, souvent l'innovation, elle vient de petites start-up qui ensuite s'allient avec des gros acteurs. Bon, est-ce que là, ça veut dire que finalement, c'est moins grave ce manque d'investissement ? Et puis, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Sanofi. Je disais moi-même, après tout, pourquoi pas soutenir, revendiquer l'idée d'un soutien clair et franc d'un champion européen en la matière. Sauf que si ce sont pas précisément les grosses entreprises qui sont les plus innovantes, alors à quoi bon ?
Non, tout à fait. Hein, je vous suis, mais en fait, je crois qu'il faut garder en tête une chose, qui est que le vaccin est un produit particulier où il y a des exigences en Europe très élevées de sécurité et de qualité, et donc on ne peut en fait administrer des vaccins soit qui sont produits en Europe, soit qui viennent de zones qui ont exactement les mêmes critères. Et donc, ça n'est pas comme d'autres médicaments, comme certaines antibiotiques ou du paracétamol qu'on peut importer d'Inde. Le vaccin est un processus plus compliqué. Donc, il est indispensable d'avoir des capacités de production en Europe. À l'heure actuelle, on en a parce qu'elles viennent des façonniers, des sous-traitants, du réseau de sous-traitants, qui est encore un très grand réseau, très robuste, qui est un bon écosystème. Mais les grands laboratoires pharmaceutiques ont, comme le disait Monsieur de Pouvourville, en fait réduit leur capacité de production en Europe. Donc il est important d'avoir ça en tête parce que on ne peut pas importer un vaccin de n'importe où. Et en période de crise,
attendez, je vous arrête, Anne Buchet, de n'importe où. Quand vous dites de n'importe où, c'est qui n'a pas eu, qui n'est pas passé par l'Agence européenne du médicament. Sauf que quand on regarde les choses, regardez par exemple ce qui se passe en Hongrie. Les premières doses du vaccin russe, le Sputnik V, sont arrivées la semaine dernière. Il va y en avoir 2 millions au total. Le feu vert a été donné vendredi dernier, toujours en Hongrie, pour le vaccin chinois. Donc en réalité, on a un cavalier seul au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Non, parce que la Hongrie, hein, de toute façon, bon, c'était très clair. Il faut quand même replacer aussi ces accords européens dans leur contexte. Les accords européens, comme je l'ai dit, étaient pour une enveloppe budgétaire de 2,7 milliards, et on dit. Les États membres se sont engagés à négocier conjointement ces accords, mais rien n'empêchait un pays européen de choisir d'autres vaccins ou des vaccins additionnels. Le seul engagement était de ne pas mener de négociations bilatérales avec les industries qui étaient engagées dans les contrats européens.
Mais c'est-à-dire que, pardon, mais le risque quand même, c'est qu'un certain nombre de pays suivent la Hongrie. Les résultats, alors il va falloir regarder, mais les derniers résultats par exemple, la semaine dernière, il y a eu une certification de la revue scientifique The Lancet sur le vaccin Sputnik V. Il y a une autre étude d'experts indépendants qui considère que ce vaccin est efficace à 91,6% contre le Covid. Alors, une fois encore, il en faut plusieurs, mais il semble que ça soit un vaccin assez efficace. On peut s'attendre assez légitimement à ce que d'autres États membres, demain, sortent justement du cadre de la Commission pour aller chercher des vaccins ailleurs.
S'il y a des vaccins qui sont en dehors du portefeuille, mais ça, je ne pense pas que, enfin, je ne vois pas pourquoi c'est problématique. L'objectif de la Commission européenne était de sélectionner un certain nombre de vaccins qui avaient un fort potentiel et d'assurer la disposition de ces vaccins pour les 27 pays. Mais s'il y a d'autres vaccins qui arrivent sur le marché, je comprends tout à fait que les gouvernements nationaux, qui dans la souveraineté sanitaire, sont légitimes à acheter ces vaccins. La Hongrie le fait. Il faut simplement savoir qu'à partir du moment où ça n'est pas autorisé autorisé par l'Agence des médicaments, la responsabilité incombe au gouvernement national.
Oui. On est avec vous.
C'est un risque.
C'est un risque absolument que la Hongrie a décidé de prendre. On est avec vous, Anne Bûcher, et vous, Gérard de Pouvourville, autour de cette semaine consacrée au Covid et aux nouveaux défis qu'il pose. On parle de cette Europe des vaccins, la grande cacophonie. Nous allons parler du COVAX et peut-être au bout de la file d'attente, les pays pauvres.
J'ai parlé au président russe qui m'a répété que le vaccin Sputnik V était disponible.
J'exhorte les pays et les fabricants à cesser de conclure des accords bilatéraux au détriment du COVAX. Aucun pays n'est exceptionnel et ne doit resquiller et vacciner toute sa population alors que certains restent sans approvisionnement en vaccins.
Voilà, petit emmêlage dans les bobs, c'est entièrement ma faute. J'ai pas mis le bon numéro, on entendait à l'instant le directeur général de l'OMS donc à propos du COVAX. L'Inde, le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie, voici certains des pays qui bénéficieront en premier lieu, a-t-on appris la semaine dernière, du dispositif COVAX mis en place par l'OMS et l'Alliance du vaccin, une initiative résolument solidaire dont le but est aujourd'hui de fournir d'ici fin 2021 des doses à 20% de la population de toutes nations participantes. Bonjour Nathalie Coutinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, maîtresse de conférence à l'Université Paris 13. Quand COVAX a été mis en place en avril 2020, l'objectif c'était de permettre une distribution équitable au vaccin. Là, on s'engage à un accès à hauteur de 20% de la population d'ici fin 2021. On revoit les ambitions à la baisse parce qu'on a compris qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, le nationalisme vaccinal tout azimut est passé par là et COVAX a pris un coup.
Oui, tout à fait. Les pays riches ont commandé 95% des zones de Pfizer-BioNTech. Et les pays riches, effectivement, qui ont la capacité de payer des vaccins, et parfois de les payer très cher, eh bien, ont préféré négocier eux-mêmes, hein, en bilatéral ou via l'Union européenne pour ce qui concerne les pays européens, et ne pas participer au dispositif COVAX. Le seul pays développé qui a participé, c'est le Canada, mais qui aujourd'hui se retrouve accusé finalement de profiter d'un dispositif qui a plutôt été mis en œuvre pour les pays en développement.
Pour profiter, c'est-à-dire parce qu'il va bénéficier de doses
Techniquement, il peut bénéficier de doses, mais de toute façon, le dispositif COVAX, qui de mon point de vue était une bonne idée au départ, souffre d'un sous-financement et donc n'aura pas suffisamment de doses pour répondre à ses objectifs.
Parce que les engagements de financement n'ont pas été tenus.
C'est surtout qu'il n'y a pas d'engagement nouveau. Pour le moment, de mémoire, COVAX a acquis 450 millions de doses. Si on sait que, enfin, comme on sait que c'est deux doses par individu, ça fait 225 millions de personnes qui peuvent être vaccinées sur des besoins qui dépassent, si on prend les pays en développement, 4 milliards d'individus. Donc effectivement, on est sur des acquisitions en termes de doses qui sont ridicules par rapport aux énormes besoins des pays du Sud.
Quels sont les laboratoires les plus susceptibles justement de fournir ces doses de vaccins dans le cadre de ce programme COVAX?
Alors, c'est évidemment le vaccin AstraZeneca qui, pour de multiples raisons, doit être privilégié. D'abord parce que ses conditions de conservation sont mieux adaptées à un certain nombre de pays du Sud. Et aussi parce qu'il a été financé par une coalition qu'on appelle la CEPI, qui est une coalition qui vise à créer des vaccins pour les maladies émergentes, qui avait été mise en œuvre à Davos lors de l'épidémie d'Ebola, et qui enfin, dont les participants sont l'OMS, des philanthropiques comme la Gates Foundation et des États, et qui sont plus tournés vers les questions d'accès au traitement que des entreprises privées telles que Pfizer ou Moderna. Mmh.
Les vaccins russes et chinois aujourd'hui font pas partie de COVAX. Pour quelle raison?
Alors maintenant, en fait, ce sont les autorités russes et chinoises qui finalement négocient pays par pays, qui approvisionnent largement les pays du Sud en vaccins et qui vont utiliser ce vaccin comme outil géopolitique, ce qui est ce qui peut être relativement inquiétant. On sait que les Chinois cherchent à reconstruire les routes de la soie pour étendre leur capacité d'exportation partout dans le monde et se servent de ce vaccin pour étendre leur influence politique dans un certain nombre de pays, notamment des pays d'Afrique ou d'Amérique latine.
Donc il y a un contournement du dispositif COVAX à des fins géopolitiques.
Oui.
Nathalie Koutinek, il y a plusieurs pays en voie de développement qui ont des capacités de production de vaccins et même très importants. Mais pour ce faire, il faut pouvoir acheter des licences émanant des laboratoires qui les ont développées. Jusqu'où cette option vous semble envisageable?
Alors, il y a deux possibilités pour que ces pays produisent des vaccins. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des licences volontaires. Certains pays ont déjà ces licences volontaires. L'Inde produit du vaccin AstraZeneca. Et puis, un second dispositif qui existe à l'Organisation mondiale du commerce cette fois, ce sont les licences obligatoires. C'est donc un dispositif qui permet à des pays, pour des raisons de santé publique, de demander l'autorisation de faire produire par les firmes nationales un médicament ou un vaccin, et donc d'être d'une certaine manière exempté des brevets qui protègent ces molécules, quitte à ce qu'elles versent des compensations aux détenteurs du brevet. Alors ces dispositifs existent, mais les firmes ne les aiment pas du tout, évidemment, et ils n'ont jamais été vraiment utilisés, même si un certain nombre de pays ont essayé de le faire lors de la grande pandémie du sida dans les années 90 et 2000.
Mais il faut évidemment avoir l'accord de l'entreprise en question.
Non, il faut avoir l'accord de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce.
Et ça, c'est envisageable?
Alors ça, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi beaucoup de pays ne se lancent pas dans ce dispositif qui permettrait de faire produire de plus grandes quantités des différents vaccins qui, pour le moment, existent et ont des autorisations de mise sur le marché. Et donc, ça permettrait de régler les problèmes d'accès dans les pays du Sud, mais aussi les problèmes de pénurie dans les pays du Nord, notamment chez nous. On voit bien qu'on est empêché de vacciner pour des questions de pénurie, parce que les détenteurs de brevets n'ont pas des capacités de production suffisantes, mais qu'ils n'ont pas donné non plus de licence volontaire à d'autres façonniers ou à d'autres producteurs pour produire largement ce vaccin et approvisionner la demande mondiale.
Vous restez avec nous, Anne Koutinek. Je voudrais faire réagir nos invités Anne Buchet et Gérard de Pouvourville. Pourquoi, Gérard de Pouvourville, il n'y a pas de pays qui se lance dans ces licences obligatoires?
Les pays, dans les licences obligatoires, ça exige quand même qu'il y ait... tous les pays peuvent pas le faire, entre guillemets. C'est-à-dire tous les pays n'ont pas sur place une industrie qui a la capacité de production des vaccins. En fait, les pays qui ont cette
capacité... Certains l'ont. Et d'ailleurs, y compris, pas seulement les pays en voie de développement, les pays développés aussi.
Pourquoi ils le font pas? Attendez. Moi, je connais pas le détail, si vous voulez, des négociations. Mm-hmm. Ouais, je connais... Nathalie Koutinek a mentionné... que la Russie et la Chine ont une politique extrêmement pas agressive, enfin si agressive en fait en Amérique latine et en Afrique. Et moi, je connais pas du tout la nature des accords qui sont passés par les Chinois, par exemple avec les pays d'Afrique. Ici, les Chinois ont la capacité, si vous voulez, de vendre à très bas prix entre guillemets, ou de mettre même à disposition gratuitement leurs vaccins dans des pays qui considèrent comme des pays d'intérêt stratégique pour eux. Donc peut-être que ces pays-là, entre guillemets, sont très satisfaits des conditions qu'ils arrivent à obtenir avec les Russes et les Chinois. Ça, je connais pas du tout.
Et donc, ils n'auraient pas besoin d'utiliser ces fameuses licences obligatoires, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, je comprends.
Voilà. D'autant que les Chinois, en l'espèce, ou les Russes, sont tout à fait capables de vendre à la clé, si vous voulez, aussi des capacités de production au niveau local, qui n'existeraient pas. Après, il y a les autres pays, comme les pays qui peuvent le faire. Alors, je ne sais pas pourquoi ils le font. Mais le Brésil a quand même été excellent au moment du sida, l'Inde aussi. Le Pakistan, je ne sais pas, mais au moins l'Inde et le Brésil ont été excellents pour ce type de fabrication. Alors peut-être que ça va venir, mais si on ne connaît pas aujourd'hui, si vous voulez, si on ne connaît pas aujourd'hui les accords qui sont passés avec les Russes et les Chinois sur la mise à disposition des vaccins, par exemple en Hongrie, ça peut être le cas. On n'a pas nécessairement besoin. On peut fonctionner, pardon. Alors dans les pays qui ont
en quelques mots, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, et je voudrais
On peut fonctionner par licence volontaire. Voyez. Donc voilà, c'est tout.
C'est tout. Anne Buchet, réaction et le mot de la fin en guise de conclusion.
Non, enfin, je crois que c'est dans l'Union européenne, on a beaucoup interagi avec les laboratoires pharmaceutiques et on a beaucoup favorisé la mise en partenariat de ces laboratoires pharmaceutiques avec des sous-traitants. Donc c'est vrai que la licence obligatoire, c'est pas posé comme une alternative. Vous avez peut-être entendu récemment que Charles Michel, le président du Conseil de l'Union européenne, a mentionné ça comme, a agité ça comme une menace et que à la fin, les chefs d'État vont bientôt se rencontrer pour rediscuter la question des vaccins. Donc ce sera intéressant de voir quelle sera la suite donnée à cette proposition.
Surtout que, en l'occurrence, en Europe, nous avons des moyens d'en produire, donc on pourrait l'utiliser, justement. Nathalie Coutinet, 30 secondes.
Non, on peut tout à fait le faire. Je rappelle aussi qu'à l'OMC, il y a un dispositif qui permet, pour les pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique, de bénéficier de licences obligatoires qui seraient accordées à des pays qui ont une capacité de production pharmaceutique. Donc, c'est pas la question de la capacité de production qui est importante. Et les pays du Nord peuvent très bien déclencher des mécanismes de licence obligatoire. Je rappelle que les États-Unis l'ont fait en 2001 au moment de la crise de l'anthrax. Donc c'est
un. Et alors pourquoi personne ne l'a fait aujourd'hui? Pourquoi jusqu'ici personne ne l'a fait? C'est quand même incroyable.
Parce que les firmes pharmaceutiques sont des lobbies très puissants, que les firmes pharmaceutiques n'aiment évidemment pas ce mécanisme qui diminue leur royalties, et que chaque zone des pays riches doit, je pense, protéger son industrie pharmaceutique. Je ne vois pas d'autre raison, parce que ça paraît vraiment possible. En tout cas, techniquement, tout à fait possible, et politiquement, ça résoudrait beaucoup de problèmes.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Nathalie Coutinet. Vous étiez à l'instant avec nous par téléphone. Vous êtes autrice notamment de l'économie du médicament qui était paru à la découverte. Grand merci à vous, Gérard de Pouvourville, ainsi qu'à vous, Anne Buchet. Je rappellerai pour nos éditeurs que vous êtes l'autrice d'un rapport pour Terra Nova, production des vaccins. Quels enseignements tirer de l'expérience Covid qui est paru le mois dernier? On mettra les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde. On poursuivra demain notre série consacrée au Covid-19 et à ses nouveaux défis. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les éditions de l'Artilleur ont récemment publié La Grande Déraison, le second livre traduit en français d'un essayiste britannique qui vous intéresse.
Oui, les éditions de l'Artilleur avaient déjà publié L'étrange suicide de l'Europe du même Douglas Murray, puisqu'il c'est de lui qu'il s'agit. Et il y a des livres à contre-courant, on pourrait même dire franchement réactionnaires, qui enregistrent d'importants succès de librairie. Je ne sais pas si cela sera le cas de la version française de ce livre qui, sous le titre The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity, a été l'une des meilleures ventes dans non-fiction de l'année dernière en Grande-Bretagne. Mais ces succès doivent interroger. En particulier, les intellectuels qui rêvent d'importer chez nous les thématiques dites « woke » comme l'intersectionnalité ou les études subalternes et postcoloniales. Nous verrons aussi ce qu'il en sera de l'essai que viennent de publier Helen Pluckrose et James Lindsay, mais « Cynical Theories, How Universities Made Everything About Race, Gender and Identity and Why This Harms Everybody », théorie cynique, comment les universités ont tout fait sur la race, le genre et l'identité, et pourquoi cela nuit à tout le monde, c'est un livre remarquable. Il est signé par deux deux auteurs d'articles parodiques qui ont fait couler beaucoup d'encre, quelques titres de ce Studies Hoax, comme on l'a appelé, Réactions humaines à la culture du viol et à la performativité queer dans les parcs à chiens à Portland, Oregon, ou encore Une ethnographie de la masculinité des restaurants aux serveuses en soutien-gorge, thème d'objectivisation, conquête sexuelle, contrôle masculin et raideur masculine dans un restaurant objectivant la sexualité. Ces deux articles complètement bidons, comme on s'en doute, avaient été publiés par des revues universitaires de sciences sociales qui n'ont pas vu leur caractère parodique. Un autre article pseudo-savant, « Ton combat est mon combat » fait féminisme solidaire comme réplique intersectionnelle au féminisme de choix néolibéral avait été fabriqué en recopiant de larges extraits de Mein Kampf. Le mot arien, les mots arien et allemand avaient simplement été remplacés par femme ou féminin et le mot juif par homme ou masculin. Et ce pseudo-article savant était en cours de publication lorsque le canular fut révélé.
Mais Brice, d'où vient la politique des identités ?
Ben c'est un concept que les historiens des idées font remonter à avril 1977 et à la déclaration devenue à ce titre fameuse d'un groupe de femmes lesbiennes noires qui s'appelait le Combahee River Collective. « Nous avons réalisé, écrivait-elle, que ce qui se soucie suffisamment de nous pour œuvrer à notre libération avec constance, eh bien c'est nous-mêmes. Ce recentrage sur notre propre oppression est contenu dans le concept de identity politics, ou donc politique de l'identité. La formule était née. En réalité, il faut remonter un peu plus loin dans le temps pour trouver la véritable origine intellectuelle de cette mutation au sein de la gauche. À la fin des années 60, lorsque fit simultanément son apparition aux États-Unis et en Allemagne, le slogan « Le personnel est le politique ». Dans son autobiographie « Hitch 22 », Christopher Hitchens, souvent mentionné dans mes chroniques, écrivait « Alors que 1968 commençait à refluer en un 1969, que « anticlimax » commençait à devenir un vrai mot de mon lexique, un autre terme commença à s'imposer. Des gens commencèrent à entonner le slogan « le personnel est politique ». Dès la première fois que j'entendis cette expression mortelle, je sus, comme on le fait lorsque est proférée une sinistre connerie, que c'était une très mauvaise nouvelle. À partir de ce moment-là, il suffirait d'être membre d'un sexe ou d'un genre ou d'une subdivision épidermique, voire même d'une préférence érotique, pour se qualifier comme révolutionnaire. Pour entamer un discours ou poser une question depuis la salle, la seule chose qui serait dorénavant nécessaire pour ouvrir le banc, ce serait le mot « je parle en tant que ». S'ensuivrait une description de soi narcissique. Nous avions gagné notre revendication du droit à la parole, du fait de l'expérience et du sacrifice, du travail. Aucun d'entre nous n'aurait eu l'idée de se lever pour dire que notre sexe, notre sexualité, notre pigmentation ou notre handicap étaient des qualifications en soi. Il y a bien des façons de dater le moment où la gauche a perdu, où elle s'est défaussée elle-même de son avantage moral, mais c'était la première fois que je fus amené à assister à une pareille braderie. Alors je reviendrai cette semaine sur Douglas Murray et sur son livre « La grande déraison ». Il y attaque en effet avec la même virulence le fait de parler escalité en tant que membre d'une communauté qui s'estime victimisée. Le problème que posent les nouvelles « grievance studies », études victimaires qui se sont imposées ces dernières années dans les pays anglo-saxons, c'est que seuls les membres de la minorité concernée seraient habilités à parler. Leur parole, censée mêler le témoignage et la certitude dogmatique, est tenue à ce double titre pour incontestable. Or, la recherche de la vérité, sans même parler de la démocratie, exige l'échange d'arguments entre personnes jouissant d'un statut épistémologique égal. Dans le cadre des politiques identitaires, chaque personne est renvoyée à cette fameuse identité et le commun disparaît.
Je rappelle donc La Grande Déraison, Douglas Murray aux éditions de L'Artilleur. Merci beaucoup Brice Couturier, on se retrouvera demain dans un très court instant. Sylvia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
De l'affaire du siècle.